10h sur les 3-8, nous vous proposons jusqu'à 11h une émission spéciale consacrée au festival littéraire Les Littorales, un festival qui s'est tenu du 12 au 16 octobre dernier à Marseille, organisé par les libraires indépendants associés et dont la thématique était pour cette troisième édition « Frontières en mouvement ». Parmi les nombreuses propositions du festival, qui s'est déroulé en majeure partie sous tente sur le cours d'Estienne-d'Orve, un forum radiophonique a accueilli pendant les journées du samedi 15 et du dimanche 16 octobre de nombreux écrivains présents pour l'occasion qui étaient invités à parler de leurs ouvrages. Parmi ceux-ci, nous vous proposons d'écouter dans cette émission spéciale les interventions de Daniel Maximin, auteur de l'essai « Les fruits du cyclone », de Robert Mac Liam Wilson, auteur de « Les dépossédés », de Christian Garcin, auteur de « Des femmes disparaissent », de Kauter Adimi, auteur de « L'envers des autres », et enfin de Camille de Toledo, auteur de « Vie potentielle ». Daniel Maximin est né en Guadeloupe. Dans les années 70, il participe avec ses élèves de la cité d'urgence d'Orly aux premières expériences du Théâtre du Soleil et du Théâtre de la Tempête, avec Jean-Marie Serrault. Éditeur à présence africaine, homme de radio, il animera pendant une décennie l'émission Antipode sur France Culture. Il exercera ensuite des responsabilités dans l'action culturelle aux Antilles et à Paris. Un recueil de poésie, L'invention des désirades, verra le jour à présence africaine en 2000. Sa trilogie romanesque publiée au Seuil propose une éthique et une esthétique du tissage des cultures, synthétisée dans son essai « Les fruits du cyclone », un essai dont il est question dans l'entretien qui suit.
On a des images, hein, les images, comme on dit les Antilles. Vous pensez sans doute cocotier, plage, beauté, ou alors, ça c'est le côté paradis, il y a aussi le côté enfer avec les éruptions, avec les cyclones, les séismes comme celui d'Haïti. Et donc, souvent, on se pose la question, mais entre paradis et enfer, comment font-ils ? Eh bien oui, c'est ni paradis ni enfer. Nous avons édifié une humanité. Voilà, et ce sont des peuples, ce sont des gens, ce sont des hommes. Ce ne sont pas des paysages seulement, ce sont des pays. Et donc, il s'agissait de montrer, notamment dans cet essai, mais aussi dans mes romans ou dans la poésie, mais comment on a fait ? Comment on a fait pour créer des peuples, créer des mondes en 3 siècles, et des mondes qui sont en plus pas fermés sur eux-mêmes, mais qui sont ouverts au monde. Alors j'ai essayé d'en donner un petit peu l'explication. La géopoétique de la Caraïbe, elle est faite pour montrer comment la Caraïbe a d'abord été créée par la nature de la Caraïbe. La nature de la Caraïbe a été accueillante aux opprimés. Elle leur a donné l'eau fraîche, elle leur a donné le feu, elle leur a donné la forêt, elle leur a donné les fruits libres pour se nourrir quand ils s'échappaient. Et donc, quelque part, c'est l'histoire d'une rencontre belle entre ceux qui étaient du côté des opprimés et des colonisés, qui ont été apportés dans ces régions, donc ils n'étaient pas chez eux, et qui ont été accueillis par une nature qui a été complice de leur résistance. Et c'est cette poétique-là qui explique les identités de la Caraïbe, qui explique ce que nous sommes, qui explique comment on a pu construire des pays, des identités, des peuples, des musiques, des danses, des poèmes, dans un pays qui n'avait pas été fait pour ça. C'est-à-dire, c'était pour la colonisation, pour l'oppression, pour mettre la nature en esclavage, hein, pour qu'elle fasse du coton, du sucre, beaucoup, etc., pour rapporter en Europe, et que ceux qui étaient, justement, qui faisaient le travail, ont été complices de la nature pour inventer un monde là, s'enraciner dedans et devenir ceux qui allaient faire fleurir et fructifier ces pays pour autre chose que l'exploitation de la terre, du monde et des hommes.
Vous montrez dans ce livre comment les chemins de libération et d'émancipation de ces hommes opprimés est passé par la culture dans ces Caraïbes, à travers la musique, la cuisine, la poésie, la langue. Mais finalement, sur quelle forme politique ont débouché ces chemins de libération, d'émancipation ?
Ben, une chose très simple, ça s'appelle la liberté. La liberté, ce n'est pas des frontières, ce n'est pas un régime politique. Dans tout régime politique, il y a la possibilité d'oppression de la liberté, même dans la démocratie. Celui qu'on a élu peut prendre le pouvoir, peut profiter de son élection, dire c'est vous qui m'avez mis là, pour avoir une situation d'oppression. On a connu ça dans toute l'histoire du monde, après des indépendances, après des processus de libération, c'est parfois le libérateur lui-même, le héros. On voit ça dans le théâtre d'Aimé Césaire, hein, dans le théâtre de la décolonisation, le héros lui-même qui dit « bon, maintenant, c'est moi ». Vous voyez, Lumumba est le grand libérateur pour l'indépendance du Congo. Et puis, le général en chef, Mobutu, vient et lui dit « bon, c'est fini, histoire de démocratie, si on prenait le pouvoir tous les deux ». Et Lumumba dit « non, non ». Et Mobutu, « tant pis, moi, je vais le prendre, parce que moi, en plus, j'ai l'armée ». Et bien voilà, c'est toujours la possibilité. Donc, ce que nous, on a fait en Amérique, ce n'était pas une prise de pouvoir. Les esclaves qui se sont battus pour la liberté, ce n'était pas pour conquérir le monde. Ce n'était pas pour mettre en esclavage les Blancs. C'était pour dire que nulle terre au monde ne doit porter d'esclaves. C'est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est pour dire, nous, c'est ce programme-là qu'on veut réaliser. Et non pas faire à mon tour d'opprimer puisque j'ai gagné.
Mais c'est quoi la forme politique de la liberté ?
Eh bien, c'est la démocratie. C'est-à-dire, si vous voulez, même pour comprendre les Antilles d'aujourd'hui, quelle est la chose principale ? C'est l'idée de citoyenneté. Parce que quelqu'un qui avait été considéré pendant 3 siècles comme un bien meuble, c'est-à-dire il n'avait même plus ses racines, même plus ses langues, et nos ancêtres ne savaient plus d'où ils venaient. Il faut bien comprendre ça. Alors, ils sont où ? Eh bien, ils sont chez eux, là où ils sont. Et alors, quel est le régime qui correspond à ça ? Mais c'est un régime inventé de manière abstraite en disant « vous êtes citoyen de la même zone, indépendamment de vos origines ». Comment on a fait la France de la Révolution avec des gens qui étaient Corses, Alsaciens, Bretons, Vendéens ou autres, qui avaient des religions. La France avait toutes les religions au point qu'il y a eu des guerres violentes. Comment faire pour dire on dit « au-dessus de la religion, tu es chrétien, tu es juif, tu es catholique, tu es protestant ». Comme on s'est battu pendant des... On va mettre au-dessus quelque chose qu'on va appeler la citoyenneté. Et la citoyenneté implique la laïcité, c'est-à-dire, quelle que soit ta religion, tu peux être citoyen. C'est exactement ce qui s'est passé. Et pour bien comprendre, parce que je vois bien ce que vous voulez me dire, c'est que... Mais comment tout ça n'est pas traduit, par exemple, par une indépendance politique ? Mais que signifie une indépendance politique pour des gens qui se battent en Guadeloupe, sans savoir d'où ils viennent ? Ils se battent pour... les humains qui avaient l'esclavage. C'est ce qui s'est passé en Haïti. Et alors, c'est simple, en fait, à comprendre. À ce moment-là même, la France, ce n'était pas la France avec des gens, on dirait, c'est une ethnie. C'était tous ceux qui faisaient la révolution et qui, partout où ils gagnaient, se mettaient ensemble. La bataille de Valmy, c'est ça. Peu importait qu'on soit corse, belge, dépendant du comte de ceci ou du duc de cela. On était dans une unité... pour fabriquer un monde nouveau qui n'allait pas être le monde de la féodalité. Mais avec qui ? Avec des gens totalement différents les uns des autres. Mais on disait, ça fait rien. Vous voyez, les armées de la Révolution parlaient basque, breton, parce que les gens n'avaient pas d'autres langues. Mais avec quelque chose qui était une volonté. Et si vous comprenez ça, qui est la réalité de la création de la France, et qui ne s'est pas faite facilement... Hein, qui s'est faite avec beaucoup de violence, de lenteur, etc. Mais vous comprenez comment des gens... qui étaient dans une situation encore pire, puisqu'eux ne savaient même pas d'où ils venaient, et étaient dans un pays qui n'était pas le leur. Donc, immigrés, ils disent « moi, je suis citoyen ». Citoyen, ça voulait dire « citoyen du monde ».
Le régime, pour le qualifier comme ça, sous lequel nous sommes tous, sa mondialisation, des gens parlent de démondialisation. Il me semble qu'on oublie quelque chose que vous rappelez dans ce livre-là, c'est la mondialité, imaginée par Édouard Glissant. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de cet acquis aussi de ces Caraïbes ?
Alors c'est très simple. La Caraïbe, elle est, par exemple, ma Guadeloupe était fabriquée avec 4 continents. Hein ? 4 continents pour faire une île de 1600 km². Les gens n'y croient pas, des fois, ils disent, mais si, les Amérindiens, évidemment l'Europe et l'Afrique, et aussi l'Inde qui est arrivée en masse après 1850. Donc, voilà. Donc moi, je suis devant vous, je suis asiatique, africain, américain, européen. Donc on a connu la première mondialisation, c'est la colonisation. Comment lutter contre cette mondialisation ? C'est en faisant du spécifique. La mondialisation veut nous ramener tous au même. On va dire le même coca ou le même prime time ou les mêmes films pour tout le monde sur Terre, la même boisson, etc. Mais l'homme se bagarre toujours pour fabriquer du singulier. C'est ce qui le définit. Donc même si le monde économique, comme depuis des siècles, essaie d'imposer une uniformité à la terre entière. La terre entière ne vit que de, ne respire même que de fabriquer du spécifique. Pourquoi il n'y a pas sur terre une seule langue? Même nous, on dit, ben, comme ça, on se comprendrait mieux partout où on va. Eh bien non, ça serait contraire à ce qui définit un humain. De même qu'un enfant n'a qu'une idée en tête, c'est ne pas ressembler entièrement à son père et à sa mère.
Mais fabriquer du spécifique, ce n'est pas fabriquer des frontières.
Eh bien justement, c'est Miguel Torga qui avait dit, c'est quoi l'universel?
C'est le local moins les murs.
Voilà, c'est le local moins les murs. Nous, les murs, on n'a pas pu en avoir. Donc même quand on a fabriqué nos Antilles, même notre langue, le créole, même nos musiques, il y avait des gens qui nous regardaient. L'autre était là. Et donc, de deux choses l'une, ou on s'enferme encore plus, alors on fait un château fort. Et si ça ne suffit pas une muraille, on en met deux, et puis trois, et puis encore d'autres, et puis des herses pour rester ce qu'on est. Nous, on n'a pas pu, parce que l'île, elle est sans arrêt avec les continents presque sur le dos. Je dis souvent, on est les plus vieux du monde, parce qu'on a toute la vieillesse d'Asie, d'Europe, d'Afrique, pour fabriquer un pays tout neuf en trois siècles. Donc l'idée qu'il faut des forteresses contre l'autre, c'est impensable. De même qu'on ne peut pas, très bon exemple, en fabriquer contre les cyclones. Nous avons des cyclones, quand vous allez aux Antilles, vous dites, mais c'est bizarre, leurs maisons, elles sont légères. Et oui, parce que c'est le chêne et le roseau de la fontaine. Pour lutter contre un cyclone, il ne faut pas être un chêne, il faut être un roseau. Le roseau plie et ne rompt pas. Donc cette fragilité-là, elle est au contraire notre force et notre puissance. Et ça explique que face à la mondialisation, nous, ça a été exprimé notamment par Édouard Glissant, mais ça représente l'héritage de nos ancêtres et qu'on voit dans nos cases, dans nos maisons, dans nos musiques, etc., avec le violon, avec le piano, avec les tambours d'Afrique, on bricole, on invente des musiques qui ne sont pas fermées sur nous-mêmes, mais qui deviennent ce qu'on a appelé depuis un siècle les musiques du monde, les musiques dans lesquelles les grands-parents de tous ceux qui sont ici ont dansé dans leur mariage. Ça venait de Cuba, ça venait des Antilles dans les années 10, les années 20, les années 30, les années 40. Et pourquoi ça a pu être si parlé autant au cœur de gens partout dans le monde? Mais parce que c'était le retour de choses qui venaient elles-mêmes du monde. L'Afrique a reconnu de l'Afrique, l'Europe a reconnu de l'Europe. Mozart, s'il écoute la biguine et la mazurka, reconnaît quelque chose de lui-même. Et c'est en ce sens que ce n'est pas un miracle ni une espèce de chose comme ça tombée du ciel, mais c'était l'acceptation de bricoler une liberté avec tout ce qui était apporté. Vous voyez ? Donc calcule tes forces, fais confiance à ta fragilité. Ça veut dire savoir que je suis seul, donc insulaire chacun, mais que cette solitude se nourrit de quelque chose qui est le proche. Et la grande chose que contre la mondialisation nous porte tous, mais nous, on a l'expérience un peu de ça là, c'est que ce n'est pas un rapport entre moi et l'autre, ce qu'on appelle l'étranger, mais que nous sommes tous cousins et que quelque part, ce que nous avons à vivre, c'est le proche, c'est-à-dire moi, je suis fabriqué avec de l'autre et c'est ma force. Et donc, quand l'autre me rejette ou me prenne, je lui dis, mais de toute façon, moi aussi, tu es en moi, tu es de moi, à cause de cette mondialisation que nous devons transformer en une mondialité qui fait que chaque être, chaque région, chaque culture fabrique du spécifique, comme tout musicien ne veut pas se contenter d'imiter les musiques qu'il a apprises, mais veut inventer une autre, comme n'importe quel enfant qui est en classe de 5e qui fait une poésie. Il écrit divers en se disant « personne au monde n'a encore écrit ces divers-là ». Et c'est ça qu'on appellera son identité. Il est comme tout le monde. Il est quand même singulier, comme une île est singulière au milieu des continents.
C'était Daniel Maximin. Son essai « Les fruits du cyclone, une géopoétique de la Caraïbe » a été publié au Seuil en 2006. Robert Mac Liam Wilson est né en Belfast en 1964. Il a écrit trois romans, Ripley Buckle en 1989, Manfred Spain en 1992 et Eureka Street en 1996, tous publiés chez Christian Bourgois éditeur. Les Dépossédés est un récit écrit à la suite d'une enquête sur la pauvreté en Grande-Bretagne, réalisée avec le photographe Donovan Willey. Un livre dans lequel l'auteur nous fait ressentir une grande proximité avec les gens qu'il rencontre dans les cités, les squats, les foyers d'accueil. Robert Mac Liam Wilson est interviewé par Pascal Jordana, journaliste littéraire.
Face aux vrais gens qui te racontent quelque chose. Je crois que tous les romanciers du monde se rendent compte très vite que franchement, on est nul, on est bête, on n'est pas compétent, on n'est pas sincère, on ne sait rien du monde réel. Et c'est un coup qui arrive si vite et si fort que ça coupe le souffle. Je me suis lancé ce projet, un peu influencé par James Agé, on dit en James Agé, ouais, c'est ça. Let us now praise famous men.
Louons maintenant les grands hommes.
Ouais, ouais, bien sûr. Des années 30 aux États-Unis et de George Orwell, un peu aussi. George Orwell. Excusez-moi. Donc, je me suis lancé sur ce projet un peu plein de moi-même, quoi. Un peu. J'avais 26, 27 ans et je me suis dit, mais pff, je sais écrire, quoi. Ouais. Et je suis prolétaire, et je vais tout savoir. Une semaine après, j'avais envie de me suicider face aux gens, face au réel, face à ma manque de compétences, à ma manque de maturité. Quand je me suis rendu compte que je ne serais pas capable de décrire le moindre truc que quelqu'un m'a raconté avec tant de suffisamment de éloquence, exactitude, si c'est un mot.
De justesse.
De justesse, exactement. Et c'était assez bizarre de comprendre si tôt que je me suis lancé sur quelque chose qui sera, mais sûrement un échec. Et donc, j'étais obligé de décider comment je vais gérer cet échec, parce que ça sera un échec. Et finalement, je me suis confronté avec l'idée que, déjà, je suis amateur, je ne suis pas professionnel de la misère, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas journaliste. Et j'ai du respect. En fait, c'est vrai, j'ai énormément de respect pour les erreurs, pour les bêtises. Parfois, les bêtises sont intéressantes. Et juste, si face à ça, je suis capable de un peu raconter la vérité, mais juste un peu, parce que j'étais obligé de mentir dans ce bouquin, de déguiser les identités, tout ça. Et juste après, j'ai fait un documentaire pour le BBC, où on ne peut pas faire ça. Si on a quelqu'un sur l'écran, on les voit, quoi, sans le truc à la con de pixeler. Et c'était inoubliable ce moment de là, je ne peux pas, là, j'ai fait une bêtise même d'imaginer que je sois capable. Mais à l'époque, en Angleterre, et je remarque que ça arrive en France, ça vient en France, parce qu'en France, c'est les années 80, maintenant. Vous avez Thatcher, maintenant. Et je vous assure qu'après la deuxième élection, ça sera pire. Ça va prendre 18 mois de détruire ce pays. Donc, faites gaffe. C'est pas sympa, quoi. Et à l'époque, en Angleterre, il n'y avait personne qui s'occupait de ce sujet. Donc, il restait sur mes épaules un peu. Il y avait des gens, mais pas suffisamment. J'étais capable d'avoir un film dimanche soir, BBC One, mais un truc énorme, quoi. Un truc de... Normalement, il y a des films hollywoodiens à cette heure-là. Ça n'a pas marché, c'était un échec, mais ça valait le coup parce qu'il n'y avait personne. Il y avait les profs américains des universités qui sont arrivés en disant il n'y a pas de pauvres en Angleterre parce qu'ils ont tous des télés, quoi. Ils fument. Ah, ok. Non, mais le débat, était, le discours était si maladroit et enfantin. Donc, je demande pardon pour l'échec, mais quand même, ça valait le coup un peu.
Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on se rend compte, et là tu le dis aussi finalement, que quand on parle de marginalité, on n'est pas dans la marginalité en fait. On est dans une situation qui touche énormément de gens. et continuer à parler de marginalité dans ces conditions, c'est un mensonge.
Je commence à voir quelque chose hyper anglais, hyper les années 80 à Paris. Je connais des SDF qui ont du boulot. Ah, mais si on arrive à ce point-là, ça ne va pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si on bosse, et ce n'est pas des boulots provisoires ou sur le black, dans le black. C'est les gens qui sont facteurs, éboueurs, qui dorment dans la rue, quoi. Mais ça ne va pas. Et c'était ça à Londres, surtout les années 80 et un peu les années 90 aussi, parce que Blair, il était Thatcher sans nichon, quoi. Il était pire, quoi. C'était la trahison totale. Et il nous a menés en Irak et tout ça.
Dépossédé, c'est 1992, l'écriture. Il est sorti bien plus tard, en 2005, en France. Non, j'en ai dit pas les dates. Mais ce que je veux dire, c'est que... Eureka Street, c'était après. On a l'impression que ça a changé ta position d'écrivain, que ça t'a fait prendre conscience de quelque chose. Tu parlais tout à l'heure des poètes qui servent à rien. Là, tu viens de dire pratiquement qu'un romancier, ça sert à rien non plus. Et pourtant, tu continues à écrire, mais avec un autre point de vue. Ça t'a pas bloqué. Peut-être aujourd'hui, il y a quelque chose qui t'a bloqué, mais tu continues quand même à écrire. Et c'est avec cette perspective-là, en essayant de servir modestement à quelque chose. Tu dis le reportage à BBC, c'est peut-être un échec parce que personne ne l'a regardé ou ça a servi à rien.
Mais 5 millions, quoi.
Quand même, 5 millions.
Qui n'est pas énorme pour le BBC.
Alors, qu'est-ce que ça a changé? Aujourd'hui, tu continues à écrire pourquoi et comment?
Avant, j'ai écrit deux romans avec des personnages hyper isolés, solitaires, qui parlaient à personne, qui se voyageaient dans leur ville, genre je suis seul, je réfléchis, je raconte un peu au lecteur, à vous. Mais il y avait très peu de dialogue, il n'y avait pas de scènes avec mes 200 000 personnes. Et moi, je suis accro. Comme lecteur, je lis franchement que les romans du 19e siècle. Les Anglais, les Français, les Russes.
C'est un fou de Dickens.
Fou de Dickens, fou de Balzac, fou de Tolstoy. Surtout Tolstoy. Et tellement que récemment, j'ai fait un truc quelque part en France. Macon, je crois. Et ils m'ont téléphoné avant. En disant qu'est-ce que vous aimez comme écrivain. Et j'ai raconté Tolstoy, bien sûr. Tolstoy. Il y a une petite question d'accent chez moi, en français. Et sur la fiche, quand je suis arrivé, c'était Robert, truc machin, obsessionnel de Toy Story. J'étais en larmes. Et en plus, c'est un peu vrai quand même. J'aime bien Toy Story. après le bouquin non romanesque, je me suis dit, il faut que j'ai une histoire où les gens se croisent, où les gens se parlent, quoi, qui était assez difficile. Qu'est-ce que les gens se disent? Et ça m'a libéré de... On est hyper narcissiste aussi, les écrivains. On est bizarre. Même si on est humble, on a l'impression chaque matin qu'il faut avoir une conférence de presse pour dire oh, « ce matin, ouais, ça va, quoi. J'ai fait du progrès. » Donc, ça fait de bien d'avoir une ville, un village. Le roman, c'est une forme du 19e siècle. Et il s'agit de la ville, plus ou moins. Et il s'agit d'argent. Et c'est pour ça que tout ce que j'ai écrit, ça tourne autour de soit la misère, soit les gens qui gagnent la vie un peu. Mais ouais, je me souviens d'un prof à l'école qui m'a dit il faut savoir le temps. Il fait quel temps dans un bouquin, dans une histoire. Et le look des gens, leur gueule. Hein. Mais pour moi, il faut savoir, ils ont combien d'argent. C'est ça qui compte, quoi. Et dans les bouquins, dans les romans du 19e siècle, soit anglais, soit français, soit russe, on sait tout de suite, avant le nom parfois. Madame Marneffe, on sait avant son nom. et avant sa jupe qui bouge. Et c'est le sine qua non. Sine qua non.
En français, c'est latin, en latin, c'est pareil.
Donc, ça, je suis obsédé par ça.
C'était Robert McLiam Wilson. Son livre Les Dépossédés a été publié en 2005 chez Christian Bourgois. Jusqu'à 11h, c'est une émission spéciale sur la grenouille consacrée au festival littéraire Les Littorales qui s'est tenu du 12 au 16 octobre dernier. Ce sont des extraits du forum radiophonique qui a été mis en place au sein de cette manifestation que nous vous donnons à entendre. Après Daniel Maximin et Robert McLiam Wilson, nous vous proposons maintenant d'écouter Christian Garcin, un auteur né à Marseille. Il a exercé divers emplois et a beaucoup voyagé. Christian Garcin est l'auteur d'une œuvre aux multiples ramifications, publiée principalement chez Verdier, Gallimard et L'Escampette. Romans, nouvelles, poèmes, essais sur la peinture et la littérature, récits de voyage et quelques livres inclassables, lexique, fiction biographique et autographie. Son dernier livre, Des femmes disparaissent, nous emporte dans un road movie existentiel bercé de contes traditionnels et de musique chinoise. Christian Garcin est interviewé par Yann Nicole, journaliste littéraire.
La question du genre, je ne me la suis jamais vraiment posée réellement. Disons que la forme qui convient le mieux à ce que, à un moment précis, au moment donné, j'ai envie de montrer, de raconter, d'exprimer, c'est celle que je choisis, mais ce n'est pas forcément une forme qui va être prédéfinie. J'ai écrit des fictions biographiques qui n'ont pas vraiment de genre prédéfini, des essais qui ne sont pas tout à fait des essais, vaguement des biographies, vaguement des fictions qui n'ont pas non plus de genre extrêmement défini. Bon, les romans sont des romans, c'est certain, mais ensuite, le fait de jouer avec différents supports, si on peut dire, le carnet de route, le journal de voyage, qui n'est pas un journal d'ailleurs, qui est plutôt un souvenir de voyage, un carnet de voyage, c'est ce qui me semblerait aujourd'hui être le terreau principal à partir de quoi différentes autres formes vont surgir. Quoi. Voilà, ce serait peut-être en ce moment, ce serait peut-être ça, c'est-à-dire le déplacement, le carnet, le carnet de route, les impressions de voyage qui vont, et puis tout ce qui traverse l'esprit au moment où on est en déplacement, où on est loin de ses marques, où on est où on est ailleurs, en quelque sorte, c'est ça qui va devenir le terreau de ce qui va survenir ensuite. Et ça peut prendre la forme d'un roman, bien entendu, qui lui-même s'inscrit à la suite des romans précédents. Ça peut prendre aussi, et ça c'était tout à fait inattendu, la forme d'un livre de photographie, mais ça c'est vraiment autre chose, hein, parce que ça n'était pas prémédité. Quoi, voilà.
Un mot à propos de ce livre-là, Carnet de l'Extrême-Orient russe, il est dit au dos de ce livre que c'est une région finalement où assez peu d'Occidentaux ont mis les pieds, par la force des choses, aussi peu d'écrivains occidentaux, est-ce qu'il y a voilà, précisément cette envie aussi à un moment donné d'arriver ou de rechercher ou de se déplacer vers un territoire vierge de littérature d'une certaine manière ?
Il y a quelque chose comme ça, vierge tout court déjà. Moi, je suis attiré déjà personnellement par les espaces vierges, ça c'est une chose, mais là, ce n'est pas vraiment des espaces vierges, puisque ce sont des lieux peuplés, mais en effet, des endroits où personne finalement n'est jamais allé. La ville de Tixi, qui est à l'embouchure de la Léna au bord de l'océan Arctique, dans la mer de l'Aptef, je ne suis pas certain qu'il y ait d'autres personnes que des scientifiques qui vont là-haut pour travailler sur le réchauffement planétaire. Je ne suis pas certain que d'autres personnes soient allées y passer 3 ou 4 jours comme on l'a fait. C'est une ville absolument invraisemblable, quoi. Post-apocalyptique, on a l'impression que vraiment l'apocalypse est passé par là et qui est abandonné, qui est une ancienne base soviétique militaire. Il n'y a rien à voir, évidemment. Hein. C'est une désolation totale. Il n'y a aucune trace, même dans le guide de voyage, on n'en parle pas forcément parce qu'il n'y a rien à faire là-bas. C'est une ville dont personne n'a jamais parlé, ça c'est certain. J'en dirais pas autant de Vladivostok, évidemment, ou de Khabarovsk. Mais ces lieux qui sont pour moi vierges de toute représentation préalable, sauf Vladivostok. Mais Vladivostok, c'est différent. Là, on voyage dans les noms. Vladivostok, depuis que je suis enfant, j'ai envie d'aller dans ce nom-là. Quoi. Donc, c'est comme Oulan-Bator, Samarkand, c'est des noms dans lesquels on a envie de se rendre.
entre ce carnet de voyage et ce roman, Des femmes disparaissent, on a là, me semble-t-il, deux manières finalement d'incorporer le voyage au livre. D'un côté, quelque chose qui est vraiment de l'ordre du carnet de bord, du souvenir lié au déplacement et au trajet. Et dans un roman comme Des femmes disparaissent, quelque chose, en l'occurrence l'Asie, la Chine, ces pays que vous connaissez très bien, qui deviennent une sorte de, non pas de décor, mais de terreau dans lequel s'inscrit une intrigue. Il y a là deux façons, finalement, d'appréhender et de rendre compte du voyage, me semble-t-il, par exemple avec ces deux livres, mais on pourrait prendre bien d'autres exemples.
Oui, bien entendu. Alors, mais la seule chose, c'est que dans le domaine de la fiction, dans le domaine du roman, il y a un petit paradoxe quand même. C'est-à-dire que en ce qui me concerne, j'ai besoin du déplacement géographique pour stimuler l'imagination et provoquer l'écriture de fiction, je veux dire. Mais dans le même temps, les lieux dans lesquels se déroule la fiction en question ne sont pas forcément, et la plupart du temps pas, ceux que j'ai moi-même traversés. Alors c'est assez paradoxal. Je vous donne un exemple qui peut vous montrer comment ça fonctionne, enfin, ou comment ça ne fonctionne pas d'ailleurs. Je sais. Par exemple, j'étais allé il y a quelques années dans le sud de la Sibérie, sur le lac Baïkal. J'ai passé quelques temps sur une île qui est sur le lac Baïkal et quelques temps sur la rive occidentale, la rive ouest. Et dans la piste mongole, il y a un passage qui se déroule au bord du lac Baïkal, mais il se déroule sur la rive est, celle que je ne connais pas. Donc, mais si je n'étais pas allé au bord du Baïkal, j'aurais sûrement pas écrit cette partie-là du roman qui se déroule au bord du Baïkal. Mais ce qui s'y déroule se déroule à l'endroit que je ne connais pas du Baïkal. Voilà. Alors, et c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est un peu la même chose dans Des femmes disparaissent ou les scènes qui se passent, à la fin du livre, il y a une scène dans une montagne au Japon, une montagne au pied de laquelle je suis passé, mais où je ne me suis pas rendu moi-même. Quoi. Enfin, voilà. Donc, mais si je n'étais pas passé par là, je n'aurais pas introduit cette scène. Donc il y a comme un déclencheur d'imaginaire et un déclencheur d'histoire, de fiction, mais qui a besoin, pour se développer, que cette fiction ne se situe pas réellement là où j'ai été moi-même. C'est un peu compliqué. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas.
En même temps, à l'intérieur même des livres, et notamment dans Des femmes disparaissent, il y a ce jeu constant aussi sur l'angle de vue, sur le point de narration. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui raconte l'histoire d'un autre personnage, qui lui-même raconte l'histoire d'un autre personnage, une sorte de mise en abîme comme ça. Ce qui vous intéresse aussi, c'est finalement la parole, la transmission de l'histoire, d'une certaine manière. J'imagine que cette manière de jouer avec les narrateurs est aussi une manière de jouer avec le fait de raconter des histoires et de savoir de quel point de vue on les raconte.
Oui, et savoir qui est le jeu. D'ailleurs, même dans la vie quotidienne, on peut avoir des doutes là-dessus. Quand je dis jeu, c'est qui jeu finalement ? C'est un lieu commun, je vais enfoncer une porte immensément ouverte, mais en fait, on n'est pas un seul, donc on est vraiment multiple, complexe. Et le fait de jouer avec les narrateurs et le fait de jouer avec la. Savoir où est, d'où vient la voix qui raconte, ça introduit une espèce de. Pas de flou, mais de mouvement. D'ailleurs, le thème, je vais sous les yeux, là, des frontières en mouvement finalement. C'est peut-être pour ça que j'étais invité d'ailleurs. Mais une espèce de mouvement dans la parole et surtout dans le point de vue, c'est-à-dire organiser les points de vue de manière qui n'est pas un seul point de vue. Voilà. Une de mes ambitions quand j'écris de la fiction, c'est qu'il n'y ait pas un seul personnage, pas forcément un narrateur, mais ou le narrateur ou le personnage principal, qui ne soit pas le seul qui décide de quel point de vue on doit voir l'histoire qu'on raconte. Quoi. Qu'on puisse la voir de différents côtés, par la droite, par la gauche, par en dessus, par en dessous, enfin pour donner une métaphore spatiale. Mais, donc voilà, jouer avec tout cela, ça fait partie des choses qui me tiennent à cœur et qui font partie de l'horizon de ce que j'ai envie d'écrire. Quoi. Alors évidemment, ça peut provoquer l'apparition de plusieurs narrateurs, ça peut provoquer le fait que des histoires, que des récits dans le récit illustrent l'histoire principale, enfin, un certain déplacement du point de vue. Quoi. Voilà.
C'était Christian Garcin. Son livre « Des femmes disparaissent » a été publié chez Verdier en 2011. Kauter Hadimi est née en 1986 à Alger. Elle a obtenu une licence de langue et littérature française en Algérie avant de venir à Paris. Ses nouvelles ont été distinguées à deux reprises par le prix du jeune écrivain francophone de Muret en 2006 et 2008 et par le prix du Festival international de la littérature et du livre de jeunesse d'Alger en 2008. L'envers des autres est son premier roman. paru en Algérie aux éditions Barzac en 2010. Il ausculte une société contemporaine dans ses souffrances et ses espérances. C'est de ce livre dont il est question dans l'entretien qui suit, un entretien réalisé dans le cadre du festival Les Littorales le 16 octobre dernier.
J'ai grandi à Grenoble, donc je suis née à Alger, puis je suis allée vivre à Grenoble 4 ans et je suis revenue en Algérie à l'âge de 8 ans en fait. Donc au moment effectivement où ça devenait assez terrible, on était en 94, donc la violence était déjà bien installée, et j'ai découvert l'Algérie à l'âge de 8 ans, un peu avec un regard neuf et étranger. Et j'ai eu envie d'écrire sur ce que je voyais, mais aussi d'écrire pour lire. En fait, j'arrivais à 8 ans dans une ville dans une ville presque fantôme, où la plupart des centres culturels, des librairies, des bibliothèques avaient été bombardées ou avaient fermé. Et je me retrouvais du jour au lendemain sans bibliothèque, sans livre, moi qui avais toujours été habituée à aller à ma petite bibliothèque de quartier. Et donc j'ai commencé à écrire en me disant, je vais écrire un livre pour pouvoir le lire ensuite. Donc, ce qui est complètement absurde, parce que quand on écrit quelque chose, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de le relire. Et donc, je suis un peu partie de cette idée-là, puis ça a évolué, et j'ai eu envie de raconter un petit peu ce que je voyais, ce que je ne comprenais pas. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas à cette période.
L'Envers des Autres, c'est un livre qui décrit la société algérienne avec un regard quand même assez acide, hein. Tout le monde se déteste, ou les gens ne se parlent pas, mais il y a projet littéraire dans ce livre qui est un peu résumé dans le titre L'Envers des Autres, c'est-à-dire que les mêmes événements vont être racontés de plusieurs points de vue. On va voir à quel point les gens sont liés à travers ce qu'ils traversent comme expérience de vie.
Oui, tout à fait. En fait, dans L'Envers des Autres, l'idée c'était de prendre une espèce de photo à un instant T d'Alger aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans un quartier populaire, dans un immeuble au cœur d'un quartier populaire d'Alger ? Alors, on y trouve une famille où vivent trois générations sous le même toit, donc les petits-enfants, les enfants et les parents. Et on y trouve un quotidien fait de solitude, fait de mensonges, etc. Et je voulais raconter la vérité, entre guillemets, ou le quotidien de chaque personnage. Ce que lui vivait, mais aussi la manière dont les autres le percevaient. Et montrer à quel point, finalement, cette ville qu'est Alger, qui est une ville souvent décrite, chantée, peinte, c'est la ville blanche, c'est cette ville absolument magnifique, qu'on adore, mais c'est aussi une ville assez autoritaire, c'est une ville qu'on a envie de quitter. Comment cette ville faisait, finalement, en sorte de nous guider, nous imposer ses lois, nous imposer ses contraintes. Et donc mes personnages sont très très seuls. Ils se croisent, mais ils se rencontrent jamais véritablement. On a des interactions, de petites interactions, de petits moments où ils vont se croiser, mais il n'y a pas vraiment de rencontre entre eux, bien qu'ils soient tous liés d'une manière ou d'une autre.
Yasmina, d'ailleurs, l'un des personnages qui est avec son frère, qui forme un couple, Adèle, un peu particulier, ils s'aiment, mais ils n'arrivent plus à se parler, déteste la ville. Elle ne veut plus en entendre parler.
En fait, je nuancerai. Adèle ne déteste pas la ville. C'est la ville qu'il rejette. Il a un secret, il porte en lui un lourd secret. Et il se sent rejeté par la ville, ce qui est vrai, la ville le rejette vraiment. Et lui essaye de s'intégrer, il n'est pas en conflit contre la ville, il essaie de s'intégrer mais n'y arrive pas parce qu'il est très différent, il est différent de ce qu'on attend de lui. Et ça se traduit par une espèce d'errance, par des nuits agitées, par des larmes, et ça se termine assez brusquement et assez brutalement pour lui. Yasmine, c'est assez différent. Yasmine est en opposition. C'est la fille qui est très belle. Elle a la vingtaine. Elle est à l'université. Et elle est d'une beauté agaçante. Tous les garçons du quartier la regardent, ont envie d'elle et en même temps ne supportent plus cette beauté. Elle en joue. Elle se venge. Elle venge sa famille grâce à sa beauté. Donc elle, par contre, elle est vraiment dans l'opposition. Elle est aussi un petit peu dans la violence. Elle a une beauté violente. Elle a aussi une manière d'être assez violente. Elle a un regard très très dur sur le monde. Donc je pense qu'ils sont c'est un couple fusionnel certes, mais ils sont très différents. Adèle est un peu dans l'acceptation, il est en retrait, il se cache, alors que Yasmine est vraiment dans le combat.
Et Yasmine, qui fréquente l'université, a une façon de décrire les clans des étudiants assez féroce. Et parmi les plus détestés de ces clans à l'université, ce sont les démocrates.
Oui, oui. Il y a un petit texte, effectivement, sur les démocrates. En fait, elle explique un petit peu, et c'est le regard du personnage qui dit bah, y a une espèce d'hypocrisie, puisque ce sont des agitateurs, ce sont des gens qui prennent la démocratie, mais qui n'écoutent personne. Ce sont ceux qui exigent plus de démocratie, mais qui, en même temps, sont dans un discours très caricatural, etc. Bon, moi, ça, c'est quand même des choses que j'avais observées à l'université, puisque j'ai fait ma licence à Alger, et c'est des clans que je voyais. Et même si tout le roman n'est que fiction, il y a quand même des personnages qui ont plus ou moins existé.
On s'en doute un petit peu. Ouais. Dans la voix de Yasmine, on sent qu'il y a quelque chose à voir avec l'auteur. Alors, dans cette famille, il y a également Mouna, qui, elle, est la papicha. Alors, la papicha, vous pourriez nous dire ce que c'est ?
Alors, papicha, pour la petite anecdote, le roman s'appelle L'envers des autres chez Actes Sud, mais le titre initial aux éditions Barzac, que moi j'avais choisi, c'était Les ballerines de papicha. Papicha, c'est de l'argot algérois qui pourrait signifier Lolita, mais sans aucune connotation sexuelle. C'est vraiment la petite fille très mignonne, qui n'est pas encore une jeune fille, mais qui est en train de le devenir. Une papicha, c'est une petite fille qui sourit, qui rigole beaucoup, qui est bien habillée, qui est toute mignonne. Donc Mouna est une papicha. Mouna a des rêves. Mouna, je trouve que c'est ce personnage assez lumineux dans un roman qui est quelque peu sombre. Donc c'est un personnage très lumineux, c'est un personnage qui symbolise l'avenir, parce qu'elle est encore toute petite, et même si elle commence à être un petit peu contaminée, entre guillemets, par la ville, elle reste encore, elle rêve, c'est la seule qui rêve dans tous ces personnages, c'est la seule qui a envie d'être libre, c'est la seule qui a envie, qui y croit encore, qui a beaucoup de rêves, qui a beaucoup de passion dans ce qu'elle fait.
Kauter Adimi, vous dites un roman un petit peu sombre, c'est carrément féroce sur la société algérienne, non ?
Ah, féroce, je ne sais pas si c'est le mot. Je pense que c'est ce que j'ai dit, c'était une photo. Moi, j'ai voulu prendre une photo de la ville avant de la quitter. J'ai quitté Alger il y a 3 ans. J'ai voulu prendre une photo et raconter des personnages, raconter la ville. Alger est centrale dans ce roman. Féroce peut-être, mais alors c'est qu'Alger est aussi très féroce. Enfin, si c'est le mot qu'il faut mettre, moi je trouve qu'Alger peut être féroce, que nous pouvons aussi être féroces, mais que c'est vraiment un roman, si je devais en mettre un mot, c'est un roman sur la solitude et sur l'incapacité à aller vers l'autre, à rencontrer l'autre. Et c'est vraiment central dans ce roman, c'est vraiment la solitude.
En ce moment, dans les pays arabes, il y a un printemps arabe. Et qui se déroule dans plusieurs pays et qui ne se déroule pas en Algérie. Quel regard vous avez, vous, là-dessus, Kauter Adimi ?
Alors, sur le printemps arabe, moi, le regard, quand ça a commencé à se passer en Tunisie, j'étais assez sceptique sur les débouchés que ça pouvait avoir. Quand on a appris la fuite du président Ben Ali, enfin de l'ancien président Ben Ali, j'ai eu un formidable sentiment d'espoir, déjà. Parce que je trouve que ma génération n'a pas souvent eu l'occasion d'avoir une telle bouffée d'espoir. Ce que je veux dire, c'est que la génération de mes parents, en tout cas en Algérie, ont connu le moment de l'indépendance. Donc ils ont connu 62, ils ont connu ce moment où ils apprenaient que l'Algérie était indépendante. Et je pense que connaître ce moment fait qu'ils ont un espèce d'optimisme que nous n'avons pas. Ils ont vécu un moment incroyable et... ce moment les a accompagnés toute leur vie. Nous, on ne l'a pas eu ce moment, parce qu'on a grandi, au contraire, pendant le terrorisme. On a vécu 10 ans, 12 ans de terrorisme. Et l'espoir, c'est quand même un mot qui nous dépasse un petit peu. Donc, ma génération a souvent un regard assez cynique, assez résigné sur le monde. Et je trouve que ce qui s'est passé en Tunisie, en tout cas, le mérite en Algérie de nous donner beaucoup d'espoir. Donc ça, c'est ma première vision. Après, on parle de printemps arabe. Ce sont quand même des pays extrêmement différents. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, bon, géographiquement proches, mais on est quand même extrêmement différents. On a des histoires différentes. Ce qui s'est passé en Tunisie, c'était passé en Algérie en 88. On a eu les manifestations d'octobre 88, ce qui a donné naissance à la pluralité politique, ce qui a donné naissance à une presse indépendante, et ce qui a aussi ensuite plongé le pays dans le terrorisme. Nous, c'est encore très présent dans les esprits. Je pense que pour le moment, on vient tout juste de sortir du terrorisme. On est encore dans une phase de reconstruction. On est dans une phase où on ne sait pas très bien où on va. On ne sait pas très bien ce que sera l'Algérie de demain. Je pense qu'effectivement, on n'était pas prêt. Et qu'on sera prêt, que quand on sera prêt, on le fera, ou que les choses se passeront. En tout cas, il n'y a pas d'urgence. Donc, c'est très bien de parler de printemps arabe. Après, le printemps arabe, ça a surtout été un printemps tunisien et égyptien. Je ne mets même pas la Syrie ou la Libye à l'intérieur quand on voit la situation à l'heure d'aujourd'hui.
C'était Kauter Adimi, son livre « L'envers des autres » a été publié en 2011 chez Actes Sud. Dernier extrait des entretiens réalisés dans le cadre du forum radiophonique du festival littéraire Les Littorales qui s'est tenu à Marseille du 12 au 16 octobre dernier avec l'auteur Camille de Toledo. Camille de Toledo est né à Lyon, il s'est fait connaître par la parution en 2002 de Archimondin Joli Punk, un livre publié chez Calman Levy. Il a publié dans la même collection Le Être et le Boulot, essai sur la tristesse européenne en 2009. Sous d'autres noms, Alexis Mitaille, Oscar Philipsen, il est également réalisateur et musicien. Vie potentielle est son dernier livre, un livre de la coupure, de la fêlure et de la transmission. C'est de ce livre dont il est question dans l'entretien qui suit, une interview réalisée par Thierry Guichard, journaliste littéraire.
C'est l'histoire d'une femme qui se recoue après cette sorte de grand exercice de l'émancipation, une femme qui a réussi sa carrière et qui a beaucoup... C'est l'histoire de ce père mythomane qui rêve qu'il a 3 enfants et qui raconte ça dans son entourage et qui chaque soir... en quelque sorte, dit bonsoir à des oreillers sans odeur, comme il est dit dans le livre. C'est l'histoire d'un gamin qui grandit dans un appartement désert et qui s'imagine des vies. C'est l'histoire de ce autre enfant, mais plus dans la vingtaine, qui attend un signe de la Providence parce que quelqu'un viendrait l'embaucher pour jouer dans une fiction, peut-être, dans un film, peut-être, dans un film, peut-être, dans un film, peut-être. Et au fond... toutes ces histoires, je les ai accumulées comme un... Je l'ai dit plusieurs fois en prenant cette image de l'herbier. On colle des feuilles et on dit le nom des feuilles et, ou des fleurs ou des papillons. On fait ça avec des papillons, ça fait des natures mortes. Et il y avait ça, cette volonté d'accumuler des histoires et des histoires d'un certain état, de la fêlure, de l'existence. Pour être concret, vie potentielle aussi, il est dit en anglais aussi, on dit would be life, des vies hypothétiques, des il pourrait, et ce qui pourrait être, et ce qui pourrait être, et ce qui pourrait être. Au fond, toute cette inachevée qui est la matière même de la littérature, je l'avais accumulée. Alors, bon moi, quand j'ai écrit ces vies potentielles, je faisais tourner la machine à histoire. Je me mettais même à la place de la machine. Je jouais parfois avec ce mot parce qu'en politique on a parlé de plus en plus de storytelling, les faiseurs d'histoires, ceux qui nous racontent les histoires du contemporain. Et puis parce que j'ai un cerveau qui est moitié américain, moitié français, on parle aussi des storytellers, T-E ou tale, comme l'histoire, comme le conte. Mais si on l'écrit avec l'orthographe de Taylor de l'usine Ford.
Le taylorisme.
On obtient un autre mot qui est story tailor, taylorisation. Et moi, je me suis mis à la place de la machine quand j'ai écrit toutes ces histoires. Parce que si l'on regarde ici, je suis frappé par l'abondance. Il y a une abondance d'histoires. Je veux dire, le monde est pétri de fiction. Hollywood est une machine à histoires. Désormais, les écrivains sont traités comme des machines à histoire. Il y a quelque chose d'industriel aujourd'hui dans la production d'histoire. On produit. D'ailleurs, dans la langue même de l'art, des artisans eux-mêmes, ils reprennent désormais ce vocabulaire qui aurait été considéré comme infâme il y a encore 30 ans sur la production, la promotion, la distribution. Et donc, moi, je suis sensible... presque comme un... Je ne suis pas du tout... J'ai laissé en quelque sorte le marxisme au XXe siècle, au XIXe, mais je suis sensible aux conditions de production. Et je vois que c'est le régime des productions d'histoire. Aujourd'hui, c'est fascinant. Vous savez, à Hollywood, il y a des scénaristes qui ont la responsabilité des répliques secondaires. Ce sont des telles chaînes de spécialisation du travail scénaristique que c'est comme à l'usine. C'est-à-dire c'est du Chaplin. Quoi. C'est les temps modernes, sauf qu'on ne sert plus des boulons, mais on s'occupe d'un personnage, dans les séries particulièrement. Donc cette vitesse comme ça, de production est là, finalement, dans cette machine à histoire. Et je crois que le travail de l'écriture et la place de l'écrivain et de l'artisan, enfin, en tout cas dans ce livre, elle commence avec l'exégèse. Elle commence avec celui qui creuse et qui va casser l'écran. C'est la figure d'un type qui se lèverait, qui serait comme ça sous hypnose à la fin d'Orange Mécanique, qui serait accroché à son siège avec l'obligation de regarder des histoires et des histoires et des histoires et des histoires, et qui à un moment arriverait à se libérer de ses liens et à approcher, au moins approcher un simple cutter d'un écran de cinéma en disant « je vais entailler cet écran et je vais essayer de voir ce qu'il y a derrière ».
Mais en même temps, ce personnage chez vous, il pourrait être aussi une sorte de réincarnation de Sisyphe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a taillé, une nouvelle histoire apparaît, il faut recommencer le...
Tout à fait. Alors ça, c'est peut-être une sorte de chose qui fait de moi... Bon, parfois une sorte de figure de l'espérance et parfois une figure un peu désespérée, c'est que je sais qu'en entaillant l'écran, il y en aura un autre derrière et un autre derrière et un autre derrière et un autre derrière. Et donc une autre histoire et une autre histoire. C'est cette chose que je raconte dans mon enfance. Il y avait un petit lieu où les trains donc, passaient, il y avait une sorte de barrière et je ne sais pas ceux qui vivent à côté des lignes de chemin de fer... Il y a toujours un petit écriteau, il y a marqué « Un train peut en cacher un autre ». Et au fond, je pense que ce petit écriteau, qui était la première chose que j'ai vraiment appris à lire, où j'expérimentais, je comprenais cet écriteau, c'était écrit en gros, « Un train peut en cacher un autre ». Alors ça a déteint sur la vie tout entière. Une histoire peut en cacher une autre, une fiction peut en cacher un autre, un nom peut en cacher un autre, une vie peut en cacher une autre, etc. etc. Bon. Mais simplement l'effort, si on reprend ce grand mot de la libération, ou d'essayer de s'affranchir hein, de cette hypnose, de cette machine à histoire, ou de ce siège auquel nous sommes accrochés, comme ça, ça vaut quand même la peine. Parce que dans le geste, hein, c'est comme un historien d'art qui va regarder derrière une toile de maître et il va dire, tiens, il y a l'esquisse d'un croquis qui est derrière un croquis. Il y a quand même quelque chose qui naît de cette quête-là. Il y a un savoir, il y a quelque chose qui naît, c'est un vertige, à la fois un vertige de l'identité, qui est une belle chose, dans un temps où tout le monde se crispe sur l'identité. C'est une belle pédagogie littéraire que d'être...
Avec des identités poreuses, enfin où...
Oui, être initié là aussi à cette forme de pédagogie du vertige. Moi, il y a cette chose que j'adore dans l'histoire littéraire, c'est le chapitre 9 du Quichotte où Cervantes dit qu'il n'est pas l'auteur de l'histoire et il dit que ça n'est qu'un texte en traduction. Donc là aussi, en fait, c'est un vieux savoir de la littérature, mais c'est un savoir bien gardé. Mais c'est un vieux savoir, cette histoire du vertige. Hein ? Les écrivains jouent avec ce jeu de rôle, ce jeu labyrinthique, cette sorte de vertige, véritablement. Et c'est, j'espère, moi, j'ai parfois espoir que ce savoir bien gardé de la littérature pourrait rentrer dans l'école, même, presque. Parce que, à mon avis, la condition de la vie sur Terre au 21e, dans ces strates de fiction, on y serait mieux préparé si on était plus renseigné sur cette forme du vertige. On serait mieux armé.
Camille de Toledo, son livre Vie potentielle a été publié au Seuil en 2011 dans la collection La librairie du 21e siècle. C'est ainsi que se termine cette émission spéciale sur les 3-8 consacrée au festival littéraire Les Littorales qui s'est tenu du 12 au 16 octobre dernier à Marseille, un festival organisé par les libraires indépendants associés dont la thématique était pour cette troisième édition Frontières en mouvement. Vous avez pu entendre au cours de cette émission des extraits des interventions des auteurs Daniel Maximin, Robert MacLiam Wilson, Christian Garcin, Kauter Adimi et Camille de Toledo. Entretien enregistré les 15 et 16 octobre dernier dans le cadre du forum radiophonique mis en place par le festival Les Littorales. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez réécouter à tout moment cette émission sur le site radiogrenouille.com ainsi que l'émission Le Livre à Marseille, réalisé également dans le cadre de ce forum radiophonique des littorales. Plus d'infos et contacts sur le site leslittorales.com. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne journée à toutes et à tous.